Tu n'as pas abandonné le monde. Tu n'abandonnes personne. Même quand nous te délaissons, quand nous sommes perdus, tu te mets toujours à notre recherche. C'est toi le premier qui est venu nous chercher. Tu nous as retrouvés définitivement en Jésus-Christ. En lui, en ton Fils bien-aimé, mort et ressuscité, aujourd'hui encore un chemin est devant nous. C'est toi qui fais ce chemin pour nous, qui nous permet d'y marcher. Oui, que nous y marchions avec joie, par la force de ton Saint-Esprit. Amen. En deux, parce que nous avons médité ce psaume en réunion de prière et nous avions reçu beaucoup de choses du Seigneur dans cette méditation commune. Psaume 102. Prière du malheureux qui défaille et se répand en plainte devant le Seigneur. Seigneur, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage au jour de ma détresse. Tends vers moi l'oreille. Le jour où j'appelle, vite, réponds-moi. Car mes jours sont partis en fumée, mes os ont brûlé comme un brasier. Comme l'herbe coupée, mon cœur se dessèche. J'en oublie de manger mon pain. À force de gémir, je n'ai plus que la peau sur les os. Je ressemble au chouka du désert. Je suis comme le hibou des ruines. Je reste éveillé, me voici comme l'oiseau solitaire sur un toit. Tous les jours, mes ennemis m'outragent. Furieux contre moi, ils maudissent par moi. Comme pain, je mange de la cendre et je mêle des larmes à ma boisson. Par ton indignation et ton courroux, tu m'as soulevé et jeté. Mes jours s'en vont comme l'ombre et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Seigneur, tu sièges pour toujours et tous les âges feront mention de toi. Tu te lèveras par amour pour Sion, car il est temps d'en avoir pitié. Oui, le moment est venu. Tes serviteurs tiennent à ces pierres et sa poussière leur fait pitié. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre ta gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion et deviendra visible dans sa gloire, quand il se tournera vers la prière des spoliés et cessera de les repousser. Que cela soit écrit pour la génération dernière, et un peuple recréé louera le Seigneur. Il s'est penché du haut de son sanctuaire. Le Seigneur, depuis les cieux, a regardé la terre pour écouter le gémissement des prisonniers et relâcher les condamnés à mort. On publiera le nom du Seigneur dans Sion et sa louange dans Jérusalem, quand se réuniront peuples et royaumes pour servir le Seigneur. Il a réduit mes forces en pleine course, il a abrégé mes jours. Mon Dieu, ai-je dit, tu ne m'enlèves pas, ne m'enlèves pas au milieu de mes jours. Tes années couvrent tous les siècles. Autrefois, tu as fondé la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils périront, toi tu resteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les remplaceras comme un habit et ils céderont la place. Voilà ce que tu es et tes années ne finissent pas. Les fils de tes serviteurs s'établiront et leurs descendants se maintiendront devant toi. Alors je vais partir du verset 17 qui est mal traduit dans la traduction que j'ai lue. Le Seigneur rebâtira Sion. Il n'y a que deux traducteurs qui ont vraiment respecté le texte hébreu et traduit comme c'est écrit par un passé. Le Seigneur a reconstruit Sion. Le Seigneur a construit Sion. Le verbe est vraiment à l'accompli en hébreu, c'est-à-dire on considère que l'action est déjà faite. Et pourquoi la majorité des traducteurs ont traduit par un futur ? Parce que dans le contexte du psaume, on voit que Sion n'est pas reconstruite, au contraire, elle est en ruine. On nous dit que les juifs, les serviteurs du Seigneur, en aiment la poussière, en aiment les pierres, mais que tout le monde se moque d'eux, puisque leur capitale est détruite. Ils sont couverts de honte dans les pays où ils sont en exil. Voilà ce que dit le psaume. Visiblement, dans tout le reste du psaume, Sion n'est pas construite. Sion est détruite. Mais ce qui est intéressant et fondamental aussi pour notre foi, les Juifs considèrent qu'elle est construite. Que même s'ils n'ont sous les yeux que des ruines, par la foi, ils savent que la parole de Dieu est vraie plus que la réalité. Et Dieu a reconstruit Sion, c'est leur foi. C'est cette foi qui leur permet, dans les pires détresses, de continuer. Et nous, nous avons exactement une foi pareille. Nous savons, et même les non-croyants savent, qu'il y a eu un homme, Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Ça, tout le monde le sait. Mais nous, nous savons, par la foi, que sa résurrection est la vérité. Il est ressuscité. Jésus parle lui-même de son corps comme étant Sion. Car qu'est-ce qu'on considère comme étant Sion, en fait ? C'est la capitale des Juifs. C'est la colline où David a construit le temple. Enfin, elle est à côté de du temple. Mais on considère que Sion représente le temple de Jérusalem avec la présence glorieuse, inoubliable du Seigneur dans ce temple. Les Juifs gardent la mémoire de cette présence glorieuse de Dieu dans le temple. Dieu était vraiment présent. Vous lisez la Bible, vous lisez les psaumes, vous verrez combien les croyants ont expérimenté une présence de Dieu dans le temple à Jérusalem. C'est quelque chose d'inoubliable qui s'est gravé définitivement dans leur mémoire. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs gardent la mémoire de la présence glorieuse de Dieu dans son temple. Et ce temple était debout à l'époque où Jésus parlait, où il a enseigné et prophétisé. Et il a prophétisé, lui, que le temple serait détruit. Mais il a dit en même temps, quand il était dans le temple, « Détruisez ce temple, en 3 jours, je le reconstruirai. » Donc il donnait une parole qui pouvait être comprise de 2 façons. Le temple de Jérusalem où il se trouvait, mais là, après sa résurrection, les disciples ont compris que ça concernait son corps. Les deux. Ça concernait son corps par sa résurrection, Jésus est la garantie que la résurrection de Sion viendra. Et que dans sa résurrection, nous avons l'accomplissement, la certitude que les prophéties sont vraies. Les prophéties de Dieu sont vraies, même si nous ne les voyons pas. Et voilà ce qui a permis aux Juifs d'avancer encore aujourd'hui, parce qu'ils se basent sur les paroles de Dieu. Et nous avons cette parole de Jésus qui non seulement a été prononcée à l'avance, il a dit Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Mais les apôtres nous ont écrit les témoignages oculaires de cette résurrection. Ils sont les témoins de la résurrection de Jésus. Cette résurrection est pour nous déjà là. Elle est déjà là. Bien sûr, nous attendons la résurrection. Bien sûr, on voit que notre corps périclite. Et bien sûr, nous savons qu'un jour, on sera enterré comme tout le monde. Mais nous savons que la résurrection est déjà là. Même si nos yeux ne voient pas ces choses. Parce que pour le moment, on vit par la foi. On vit par l'espérance, par l'amour et par la foi. Et Paul donne une définition de l'espérance. Il dit, ce qu'on voit, on ne l'espère plus. Par définition même. Même en français, le mot espérer signifie que quelque chose n'est pas encore là, mais on y croit. On sait que c'est vrai, mais c'est pas là. Et Paul dit, c'est pareil, en grec, en hébreu, le mot espérer, c'est désigne attendre quelque chose, mais l'attendre en étant sûr que ça arrivera. L'espérance n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est, ouais, c'est moi qui me fabrique un espoir. Mais l'espérance, c'est pas nous qui la fabriquons. C'est Dieu qui nous la donne. En nous donnant la certitude que ce qu'il nous dit va s'accomplir est déjà accompli. Même si nous ne le voyons pas. Et nous avons plusieurs textes comme ça qui nous disent que la foi, c'est être sûr de choses qu'on ne voit pas. C'est même la définition qui est donnée dans Hébreux 11, verset 1. La foi est une façon de posséder déjà ce que l'on espère. La foi, voilà la définition de la foi dans Hébreux 11, est une façon de posséder déjà ce qu'on espère. Un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Ou je crois que c'est l'apôtre Pierre qui dit, vous croyez en Jésus sans le voir encore. Nous ne le voyons pas, mais nous croyons en lui. Voilà ce qui est donc déjà dans ce psaume, cette définition de la foi qui voit les choses de Dieu comme étant accomplies, même si nous ne les voyons pas. Tu as reconstruit, le Seigneur a reconstruit Sion, il a fait voir sa gloire. Il y fait voir sa gloire. J'ai dit que Sion se définit essentiellement par ce temple qui est la présence glorieuse de Dieu. Et dans ce psaume, nous avons aussi une autre définition, je pourrais dire, de Sion. Au verset 22, on publiera le nom du Seigneur dans Sion et sa louange dans Jérusalem. Le but de Dieu, c'est que toutes les louanges, toutes les actions de grâce pour toutes les résurrections qu'il aura accomplies soient réunies dans Sion et qu'ainsi son nom soit glorifié. Parce que le nom de Dieu, c'est la vie, c'est l'amour qui se communique à l'être humain. C'est l'homme qui a écrit ce psaume. Il décrit longuement sa détresse. Il la décrit longuement au début, au moins une douzaine de versets. Sa maladie est très très grave et il n'a même plus d'appétit. Il parle de nouveau de sa détresse au verset 24 après avoir parlé de cette certitude que le Seigneur a construit Sion. Il dit, le Seigneur a réduit mes forces en pleine course. Il voit arriver la fin de sa vie alors qu'il n'en est même pas encore au milieu, qu'il est au milieu au milieu de ses jours. Ne m'abrège pas ma vie comme ça, Seigneur. Donc nous avons quelqu'un ici dans ce psaume qui a été dans et qui est plusieurs fois de suite dans des détresses, dans des détresses où il était seul, où il n'y avait que la prière, qui lui restait. Eh bien, Jésus a été seul, les Juifs ont été seuls, traversent parfois de façon complètement seule, sans aucune aide, les détresses de ce monde auxquelles ils sont confrontés. Et le croyant peut se trouver dans la solitude, isolé. Peut-être pas à cause de la mauvaise volonté des autres, mais parce qu'on ne peut pas, le rejoindre dans ses détresses. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui a connu la détresse. Et on ne peut jamais connaître une détresse plus grande que celle de Jésus. Et les psaumes nous avons étudié depuis 3 ans les psaumes, on voit qu'il y a souvent des détresses exprimées. Et on se dit, mais alors ça ne s'arrête jamais. Mais oui, mais il y a toujours à nouveau l'aide de Dieu, comme se le dit le verset du psaume 34, que Marc Fayet nous a plusieurs fois déjà rappelé. Le juste a beaucoup de malheurs, chaque fois le Seigneur le délivre. Alors on peut se demander, mais alors pourquoi c'est toujours à répétition ces détresses? Et il y a une louange, on voit la foi qui s'exprime avec force, et puis de nouveau une détresse, de nouveau une prière de supplication. Seigneur, viens vite, aide-moi, ne te tais pas, ne cache pas ta face. Ben, l'apôtre Paul, lui aussi, a connu des détresses sur détresses, avec des moments de résurrection où le Seigneur, chaque fois, le délivrait. Et ainsi, il a vraiment manifesté cette résurrection de Jésus, qui est une certitude. Je vous lis un passage dans 2 Corinthiens 1, le verset 9 et le verset 5. « Oui, nous avions reçu en nous-mêmes notre arrêt de mort. Ainsi, notre confiance ne pouvait plus se fonder sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ressuscite les morts. De même que les souffrances du Christ abondent pour nous. De même, par le Christ, abonde aussi notre consolation. » Là, nous avons la réponse de la parole de Dieu concernant notre question. Pourquoi toujours de nouveau des détresses? Pourquoi elle s'enchaîne? Et pourquoi chaque fois le Seigneur nous vient en aide? De même que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même par le Christ abonde aussi notre consolation. Le Seigneur se révèle de cette manière. Nous voyons dans ce psaume que les Juifs sont exilés, ils sont vraiment l'objet du mépris des nations, puisque leur capitale n'existe plus, leur roi, leur dynastie royale est anéantie, la dynastie de David, jusqu'à aujourd'hui. Et Jésus est fils de David. L'espérance de la promesse de Dieu à David, elle est certaine. Jésus est fils de David. Et c'est accompli. Et dans leur détresse, même, ils apportent Dieu. Ils apportent Dieu aux nations. Puisqu'on nous dit que dans ce psaume, les nations viendront à Jérusalem proclamer. Tous les peuples et les royaumes, c'est au verset 23, viendront servir Dieu à Jérusalem. Au verset 22, on publiera le nom du Seigneur dans Sion, sa louange dans Jérusalem. Ce ne sera plus seulement les Juifs, ce sera toutes les nations. C'est ce que dit le texte de Galates que nous avons écouté. Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. Mais cette promesse, elle est portée par les Juifs. Elle est d'abord par les Juifs. Ça, c'est par les Juifs que cette merveilleuse réalité de la résurrection nous a été transmise, que le Seigneur a reconstruit Sion et que sa parole s'accomplira. Nous avons écouté le texte de Zacharie que René nous a lu et dans les lectures, on nous avait fait sauter le verset qui parle du deuil de la famille de David, de Nathan, le prophète, de Lévi, le prêtre, de Shimei. Et ces deuils, on nous dit, les hommes et les femmes séparément. Donc on voit bien que ce sont des Juifs qui sont en deuil. C'est pas les nations. Chez les nations, nous avons les femmes et les hommes ensemble. Dans les synagogues, encore aujourd'hui, les femmes sont séparées des hommes, sont pas au même endroit dans une synagogue. Donc on voit que Zacharie annonce un deuil très, très, très profond dans le peuple juif au sujet d'un fils unique. Il y aura un deuil national. Chaque famille sera dans le deuil pour ce fils unique. Et ils reconnaîtront à ce moment-là, dit Zacharie dans un autre passage, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est ce verset qui est cité par l'évangile de Jean au moment de la mort de Jésus. Ils verront celui qu'ils ont percé. Jésus est venu pour Sion. Et ça aussi, nous ne le voyons pas. Parce qu'il y a toujours, parmi les Juifs, le refus de Jésus comme Messie. Mais nous savons que c'est vrai. Même si nous ne le voyons pas. Nous savons que c'est vrai qu'il y aura une merveilleuse découverte de Jésus comme leur fils à eux, le fils de Dieu, celui qui est né du peuple d'Israël et qui est celui dont parle aussi notre psaume. Toi, tu es, tes années ne finissent pas. Nous sommes là devant le mystère du Dieu d'Israël qui est à la fois père et fils et qui, dont les années ne finissent pas. Comment peut-on dire cela de Jésus, qui est né d'une femme, né de la Vierge Marie, nous le disons dans le Credo, né donc de David, né de Abraham. Comment lui qui a eu des années limitées dans le temps historique, en même temps on nous dit ces années ne finissent pas. C'est le mystère, le grand mystère de la foi. Nous adorons celui qui a eu un temps historique, qui est venu dans un temps historique donné, qui est né, qui est mort, mais il est ressuscité. Ses années ne finissent pas, et même on nous dit, il était avant la création. Voilà ce que nous croyons, que l'histoire est porteuse d'un grand mystère, que Dieu a ressuscité Jésus dans l'histoire. Dans ce temps historique que nous vivons, il y a déjà la résurrection. Elle n'est pas seulement à la fin des temps. Et nous sommes ce peuple dont parle le psaume, le peuple qui sera créé louera le Seigneur. C'est le verset 19. Un peuple créé louera le Seigneur. Ce peuple est créé à partir de la résurrection. L'Église provient de la résurrection de Jésus. Elle provient de son corps mort, ressuscité. Et nous allons communier dans quelques instants à son corps vivant. Amen.